Chapitre 8. Comment Nicolas Meiser avait exécuté le testament de son oncle. Le docteur Hirtz de Berlin, qui avait copié ce testament lui-même, s'excusa fort obligeamment de ne l'avoir pas envoyé plus tôt. Ses affaires l'avaient contraint de voyager loin de la capitale. En passant par Danzig, il s'était donné le plaisir de visiter M. Nicolas Meiser, ancien brasseur, richissime propriétaire et gros rentier, actuellement âgé de 70 ans. Ce vieillard se rappelait fort bien la mort et le testament de son oncle, le savant, mais il n'en parlait pas sans une certaine répugnance. Il affirmait, d'ailleurs, qu'aussitôt après le décès de Jean Meiser, il avait rassemblé 10 médecins de Danzig autour de la momie du colonel. Il montrait même une déclaration unanime de ces messieurs, attestant qu'un homme desséché à l'étuve ne peut en aucune façon ni par aucun moyen renaître à la vie. Ce certificat, rédigé par les adversaires et les ennemis du défunt, ne faisait nulle mention du mémoire annexé au testament. Nicolas Meiser jurait ses grands dieux, mais non sans rougir visiblement, que cet écrit concernant les procédés à suivre pour ressusciter le colonel n'avait jamais été connu de lui ni de sa femme. Interrogé sur les raisons qui avaient pu le porter à se dessaisir d'un dépôt aussi précieux que le corps de M. Fougas, il disait l'avoir conservé 15 ans dans sa maison avec tous les respects et tous les soins imaginables, mais au bout de ce temps, obsédé de visions et réveillé presque toutes les nuits par le fantôme du colonel qui venait lui tirer les pieds, il s'était décidé à le vendre pour 20 écus à un amateur de Berlin. Depuis qu'il s'était débarrassé de ce triste voisinage, il dormait beaucoup mieux, mais pas encore tout à fait bien, car il lui avait été impossible d'oublier la figure du colonel. À ces renseignements, M. Hirtz, médecin de Son Altesse Royale, le prince régent de Prusse, ajouta quelques mots en son nom personnel. Il ne croyait pas que la résurrection d'un homme sain et desséché avec précaution fût impossible en théorie. Il pensait même que le procédé de dessiccation indiqué par l'illustre Jean Meiser était le meilleur à suivre. Mais dans le cas présent, il ne lui paraissait pas vraisemblable que le colonel Fougas pût être rappelé à la vie. Les influences atmosphériques et les variations de température qu'il avait subies durant un espace de 46 ans devaient avoir altéré les humeurs et les tissus. C'était aussi le sentiment de M. Renaud et de son fils. Pour calmer un peu l'exaltation de Clémentine, ils lui lurent les derniers paragraphes de la lettre de M. Hirtz. On lui cacha le testament de Jean Meiser, qui n'aurait pu que lui échauffer la tête. Mais cette petite imagination fermentait sans relâche, quoi qu'on fît pour l'assoupir. Clémentine recherchait maintenant la compagnie du docteur Martout. Elle discutait avec lui, elle voulait voir des expériences sur la résurrection des rotifères. Rentrée chez elle, elle pensait un peu à Léon et beaucoup au colonel. Le projet de mariage tenait toujours, mais personne n'osait parler de la publication des bans. Aux tendresses les plus touchantes de son futur, la jeune fiancée répondait par des discussions sur le principe vital. Ses visites dans la maison Renaud ne s'adressaient pas aux vivants, mais aux morts. Tous les raisonnements qu'on mit en œuvre pour la guérir d'un fol espoir ne servirent qu'à la jeter dans une mélancolie profonde. Ses belles couleurs pâlirent, l'éclat de son regard s'éteignit. Minée par un mal secret, elle perdit cette aimable vivacité qui était comme le pétillement de la jeunesse et de la joie. Il fallait que le changement fût bien visible, car Mademoiselle Sambucco, qui n'avait pas les yeux de mer, s'en inquiéta. Monsieur Martout, persuadé que cette maladie de l'âme ne céderait qu'à un traitement moral, vint la voir un matin et lui dit « Ma chère enfant, quoique je ne m'explique pas bien le grand intérêt que vous portez à cette momie, j'ai fait quelque chose pour elle et pour vous. Je viens d'envoyer à M. Karl Nibor le petit bout d'oreille que Léon a détaché. » Clémentine ouvrit de grands yeux. « Vous ne me comprenez pas, reprit le docteur. Il s'agit de reconnaître si les humeurs et les tissus du colonel ont subi des altérations graves. M. Nibor, avec son microscope, nous dira ce qui en est. On peut se rapporter à lui, c'est un génie infaillible. Sa réponse va nous apprendre s'il faut procéder à la résurrection de notre homme ou s'il ne reste qu'à l'enterrer. » Quoi ? S'écria la jeune fille. On peut décider si un homme est mort ou vivant sur échantillon ? Oh, il ne faut rien de plus au docteur Nibor. Oubliez donc vos préoccupations pendant une huitaine de jours. Dès que la réponse arrivera, je vous la donnerai à lire. J'ai stimulé la curiosité du grand savant. Il ne sait absolument rien sur le fragment que je lui envoie. Mais si, par impossible, il nous disait que ce bout d'oreille appartient à un être saint, je le prierai de venir à Fontainebleau et de nous aider à lui rendre la vie. Cette vague lueur d'espérance dissipa la mélancolie de Clémentine et lui rendit sa belle santé. Elle se remit à chanter, à rire, à voltiger dans le jardin de sa tante et dans la maison de M. Renaud. Les 12 entretiens recommencèrent. On reparla du mariage. Le premier banc fut publié. « Enfin, disait Léon, je la retrouve. » Mais Madame Renaud, la sage et prévoyante mère, hochait la tête tristement. « Tout cela ne va qu'à moitié bien, disait-elle. Je n'aime pas que ma bru se préoccupe si fort d'un beau garçon desséché. Que deviendrons-nous lorsqu'elle saura qu'il est impossible de le faire revivre? Les papillons noirs ne vont-ils pas reprendre leur vol? Et supposez qu'on parvienne à le ressusciter par miracle. Êtes-vous sûr qu'elle ne prendra pas de l'amour pour lui? En vérité, Léon avait bien besoin d'acheter cette momie. C'est ce que j'appelle de l'argent bien placé. » Un dimanche matin, M. Martout entra chez le vieux professeur en criant « Victoire !» Voici la réponse qui lui était venue de Paris. « Mon cher confrère, j'ai reçu votre lettre et le petit fragment de tissu dont vous m'avez prié de déterminer la nature. Il ne m'a pas fallu grand travail pour voir de quoi il s'agissait. J'ai fait 20 fois des choses plus difficiles dans des expertises de médecine légale. Vous pouviez même vous dispenser de la formule consacrée. Quand vous aurez fait votre examen au microscope, je vous dirai ce que c'est. Ces filasseries ne servent de rien. Mon microscope sait mieux que vous ce que vous m'avez envoyé. Vous connaissez la forme et la couleur des choses. Lui, il en voit la structure intime, la raison d'être, les conditions de vie et de mort. Votre fragment de matière desséchée, large comme la moitié de mon ongle et à peu près aussi épais, après avoir séjourné 24 heures sous un globe dans une atmosphère saturée d'eau, à la température du corps humain, est devenu souple, bien qu'un peu élastique. J'ai pu dès lors le disséquer, l'étudier comme un morceau de chair fraîche, et placer sous le microscope chacune de ses parties qui me paraissaient de consistance ou de couleur différente. J'ai d'abord trouvé au milieu une partie mince, plus dure et plus élastique que le reste, et qui m'a présenté la trame et les cellules du cartilage. Ce n'était ni le cartilage du nez, ni le cartilage d'une articulation, mais bien le fibrocartilage de l'oreille. Donc vous m'avez envoyé un bout d'oreille. Et ce n'est point le bout d'en bas, l'homme qu'on perce chez les femmes pour y mettre des boucles d'or, mais le boucle d'en haut, dans lequel le cartilage s'étend. À l'intérieur, j'ai détaché une peau fine, dans laquelle le microscope m'a montré un épiderme délicat, parfaitement intact. Un derme non moins exact, avec de petites papilles et surtout traversé par une foule de poils d'un fin divin humain. Chacun de ces petits poils avait sa racine plongée dans son follicule et le follicule accompagné de ses deux petites glandes. Je vous dirai même plus, ces poils de duvet étaient longs de 4 à 5 mm sur 3 à 5 centièmes de millimètre d'épaisseur. C'est le double de la grandeur du joli duvet qui fleurit sur une oreille féminine. D'où je conclus que votre bout d'oreille appartient à un homme. Contre le bord recourbé du cartilage, j'ai trouvé les élégants faisceaux striés du muscle de l'hélix et si parfaitement intacts qu'on aurait dit qu'ils ne demandaient qu'à se contracter. Sous la peau et près des muscles, j'ai trouvé plusieurs petits filets nerveux, composé chacun de 8 ou 10 tubes dont la moelle était aussi intacte et homogène que dans les nerfs enlevés à un animal vivant ou pris sur un membre amputé. Alors, êtes-vous satisfait? Demandez-vous merci? Eh bien, moi, je ne suis pas encore au bout de mon rouleau. Dans le tissu cellulaire interposé au cartilage et à la peau, j'ai trouvé de petites artères et de petites veines dont la structure était parfaitement reconnaissable. Elle renfermait du sérum avec des globules rouges du sang. Ces globules étaient tous circulaires, biconcaves, parfaitement réguliers. Ils ne présentaient ni dentelure, ni cet état framboisé qui caractérise les globules du sang d'un cadavre. En résumé, mon cher confrère, j'ai trouvé dans ce fragment à peu près de tout ce qu'on trouve dans le corps de l'homme. Du cartilage, du muscle, du nerf, de la peau, des poils, des glandes, du sang, etc. Et tout cela dans un état parfaitement sain et normal. Ce n'est donc pas du cadavre que vous m'avez envoyé, mais un morceau d'un homme vivant, dont les humeurs et ils ne sont nullement décomposées. Agréé, etc. Karl Nibor, Paris, 30 juillet 1859. Chapitre 9. Beaucoup de bruit dans Fontainebleau. On ne tarda pas à dire par la ville que M. Martout et les Messieurs Renaud se proposaient de ressusciter un homme avec le concours de plusieurs savants de Paris. M. Martout avait adressé un mémoire détaillé au célèbre Karl Nibor qui s'était hâté d'en faire part à la Société de biologie. Une commission fut nommée, séance tenante, pour accompagner M. Nibor à Fontainebleau. Les 6 commissaires et le rapporteur convinrent de quitter Paris le 15 août, heureux de se soustraire au fracas des réjouissances publiques. On avertit M. Martout de préparer l'expérience qui ne devait pas durer moins de 3 jours. Quelques gazettes de Paris annoncèrent ce grand événement dans leurs faits divers, mais le public y prêta peu d'attention. La rentrée solennelle de l'armée d'Italie occupait exclusivement tous les esprits, et d'ailleurs les Français n'accordent plus qu'une foi médiocre au miracle promis par les journaux. Mais à Fontainebleau, ce fut une toute autre affaire. Non seulement M. Martout et M. Renaud, mais M. Audret, l'architecte, M. Bonnivet, le notaire, et 10 autres gros bonnets de la ville avaient vu et touché la momie du colonel. Ils en avaient parlé à leurs amis, ils l'avaient décrit de leur mieux, ils avaient raconté son histoire. 2 ou 3 copies du testament de M. Meisser circulaient de main en main. La question des réviviscences était à l'ordre du jour. On la discutait autour du bassin des Carpes, comme en pleine Académie des sciences. Vous auriez entendu parler des rotifères et des tardigrades jusque sur la place du marché. Il convient de déclarer que les résurrectionnistes n'étaient pas en majorité. Quelques professeurs du collège, notés par leur esprit paradoxal, quelques amis du merveilleux, atteints et convaincus d'avoir fait tourner les tables, enfin, une demi-douzaine de ces grognards à moustaches blanches qui croient que la mort de Napoléon Ier est une calomnie répandue par les Anglais, composaient le gros de l'armée. M. Martout avait contre lui non seulement les sceptiques, mais encore la foule innombrable des croyants. Les uns le tournaient en ridicule, les autres le proclamaient subversif, dangereux, ennemi des idées fondamentales sur lesquelles repose la société. Le desservant d'une petite église prêcha à mots couverts contre les Prométhées qui prétendent usurper les privilèges du ciel. Mais le curé de la paroisse, excellent homme et tolérant, ne craignit pas de dire dans 5 ou 6 maisons que la guérison d'un malade aussi désespéré que M. Fougas serait une preuve de la puissance et de la miséricorde de Dieu. La garnison de Fontainebleau se composait alors de 4 escadrons de cuirassiers et du 23e de ligne qui s'était distingué à Magenta. Lorsqu'on sut dans l'ancien régiment du colonel Fougas que cet illustre officier allait peut-être revenir au monde, ce fut une émotion générale. Un régiment sait son histoire, et l'histoire du 23e avait été celle de Fougas depuis le mois de février 1811 jusqu'en novembre 1813. Tous les soldats avaient entendu lire dans leur chambrée l'anecdote suivante. Le 27 août 1813, à la bataille de Dresde, l'empereur aperçoit un régiment français au pied d'une redoute russe qui le couvrait de mitraille. Il s'informe, on lui répond que c'est le 23e de ligne. « C'est impossible, dit-il, le 23e de ligne ne resterait pas sous le feu sans courir sur l'artillerie qui le foudroie. » Le 23e, mené par le colonel Fougas, gravit la hauteur au pas de charge, cloua les artilleurs sur leurs pièces et enleva la redoute. Les officiers et les soldats, fiers à bon droit de cette action mémorable, vénéraient sous le nom de Fougas un des ancêtres du régiment. L'idée de le voir réapparaître au milieu d'eux, jeune et vivant, ne leur paraissait pas vraisemblable, mais c'était déjà quelque chose que de posséder son corps. Officiers et soldats décidèrent qu'il serait enseveli à leurs frais après les expériences du docteur Martout. Et pour lui donner un tombeau digne de sa gloire, ils votèrent une cotisation de 2 jours de solde. Tout ce qui portait l'épaulette défila dans le laboratoire de M. Renaud. Le colonel des cuirassiers y revint plusieurs fois, dans l'espoir de rencontrer Clémentine. Mais la fiancée de Léon se tenait à l'écart. Elle était heureuse, comme une femme ne l'a jamais été, cette jolie petite Clémentine. Aucun nuage ne voilait plus la sérénité de son beau front. Libre de tout souci, le cœur ouvert à l'espérance, elle adorait son cher Léon, et passait les jours à le lui dire. Elle-même avait pressé la publication des bans. « Nous nous marierons, disait-elle, le lendemain de la résurrection du colonel. J'entends qu'il soit mon témoin. Je veux qu'il me bénisse. C'est bien le moins qu'il puisse faire pour moi après tout ce que j'ai fait pour lui. À dire que, sans mon obstination, vous alliez l'envoyer au muséum du Jardin des Plantes. « Je lui conterai cela, monsieur, dès qu'il pourra nous entendre, et il vous coupera les oreilles à son tour. Oh, je vous aime. »« Mais, répliqua Léon, pourquoi subordonnez-vous mon bonheur au succès d'une expérience ? Toutes les formalités ordinaires sont remplies, les publications faites, les affiches posées. Personne au monde ne nous empêcherait de nous marier demain et, s'il vous plaît, d'attendre jusqu'au 19. Quel rapport y a-t-il entre nous et ce monsieur desséché qui dort dans une boîte? Il n'appartient ni à votre maison ni à la mienne. J'ai compulsé tous les papiers de votre famille en remontant jusqu'à la 6e génération et je n'y ai trouvé personne du nom de Fougas. Ce n'est donc pas un grand-parent que nous attendons pour la cérémonie. Qu'est-ce alors? Les méchantes langues de Fontainebleau prétendent que vous avez une passion pour ce fétiche de 1813. Mais moi qui suis sûr de votre cœur, j'espère que vous ne l'aimerez jamais autant que moi. En attendant, on m'appelle le rival du colonel au bois dormant. Laissez dire les sots, répondait Clémentine avec un sourire angélique. Je ne me charge pas d'expliquer mon affection pour le pauvre Fougas, mais je l'aime beaucoup, cela est certain. Je l'aime comme un père, comme un frère, si vous le préférez, car il est presque aussi jeune que moi. Quand nous l'aurons ressuscité, je l'aimerai peut-être comme un fils, mais vous n'y perdrez rien, mon cher Léon. Vous avez dans mon cœur une place à part, la meilleure, et personne ne vous la prendra, pas même lui. Cette querelle d'amoureux, qui recommençait souvent et finissait toujours par un baiser, fut un jour interrompue par la visite du commissaire de police. L'honorable fonctionnaire déclina poliment son nom et sa qualité et demanda au jeune Renaud la faveur de l'entretenir à part. « Monsieur, lui dit-il lorsqu'il le vit seul, je sais tous les égards qui sont dus à un homme de votre caractère et dans votre position, et j'espère que vous voudrez bien ne pas interpréter en mauvais sens une démarche qui m'est inspirée par le sentiment du devoir. » Léon s'écarquilla les yeux en attendant la suite de ce discours. « Vous devinez, monsieur, poursuivit le commissaire, qu'il s'agit de la loi sur les sépultures. Elle est formelle et n'admet aucune exception. L'autorité pourrait fermer les yeux, mais le grand bruit qui s'est fait, et d'ailleurs la qualité du défunt, sans compter la question religieuse, nous met dans l'obligation d'agir, enfin, de concert avec vous, bien entendu. » Léon comprenait de moins en moins. On finit par lui expliquer, toujours dans le style administratif, qu'il devait faire porter M. Fougas au cimetière de la ville. « Mais, monsieur, répondit l'ingénieur, si vous avez entendu parler du colonel Fougas, on a dû vous dire aussi que nous ne tombons pas pour mort. » « Monsieur, répliqua le commissaire avec un sourire assez fin, les opinions sont libres. Mais le médecin des morts, qui a eu le plaisir de voir le défunt, nous a fait un rapport concluant à l'illumination immédiate. Eh bien, monsieur, si Fougas est mort, nous avons l'espérance de le ressusciter. » On nous l'avait déjà dit, monsieur, mais pour ma part, j'hésitais à le croire. Vous le croirez quand vous l'aurez vu, et j'espère, monsieur, que cela ne tardera pas longtemps. Mais alors, monsieur, vous vous êtes donc mis en règle. Avec qui? Je ne sais pas, monsieur, mais je suppose qu'avant d'entreprendre une chose pareille, vous vous êtes muni de quelque autorisation. De qui? Mais enfin, monsieur, vous avouerez que la résurrection d'un homme est une chose extraordinaire. Quant à moi, c'est bien la première fois que j'en entends parler. Or, le devoir d'une police bien faite est d'empêcher qu'il ne se passe rien d'extraordinaire dans le pays. Voyons, monsieur, si je vous disais, voici un homme qui n'est pas mort, j'ai l'espoir très fondé de le remettre sur pied dans 3 jours. Votre médecin qui prétend le contraire se trompe. Prendriez-vous la responsabilité de le faire enterrer, Phoukas ? Non, certes, à Dieu ne plaise que je prenne rien sous ma responsabilité, mais cependant, monsieur, en faisant enterrer monsieur Phoukas, je serai dans l'ordre et dans la légalité. Car enfin, de quel droit prétendez-vous ressusciter un homme ? Dans quel pays a-t-on l'habitude de ressusciter ? Quel est ce texte de loi qui vous autorise à ressusciter les gens ? Connaissez-vous une loi qui le défende ? Or, tout ce qui n'est pas défendu est permis. Aux yeux des magistrats, peut-être bien, mais la police doit prévenir et éviter le désordre. Or, une résurrection, monsieur, est un fait assez inouï pour constituer un désordre véritable. Vous avouerez du moins que c'est un désordre assez heureux. Il n'y a pas de désordre heureux. Considérez d'ailleurs que le défunt n'est pas le premier venu. S'il s'agissait d'un vagabond sans feu ni lieu, on pourrait user de tolérance, mais c'est un militaire, un officier supérieur et décoré, un homme qui a occupé un rang élevé dans l'armée. L'armée, monsieur, il ne faut pas toucher à l'armée. Et monsieur, je touche à l'armée comme le chirurgien qui panse ses plaies. Il s'agit de lui rendre un colonel à l'armée. Et c'est vous qui, par esprit de routine, voulez lui faire tort d'un colonel ? Oh, je vous en supplie, monsieur, ne vous animez pas tant et ne parlez pas si haut. On pourrait nous entendre. Croyez que je serai de moitié avec vous dans tout ce que vous voudrez faire pour cette belle et glorieuse armée de mon pays. Bon, mais avez-vous songé à la question religieuse ? Quelle question religieuse ? Ah, à vous dire le vrai, monsieur, mais ceci tout à fait entre nous. Le reste est pur accessoire et nous touchons au point délicat. On est venu me trouver. On m'a fait des observations très judicieuses. La seule annonce de votre projet a jeté le trouble dans un certain nombre de consciences. On craint que le succès d'une entreprise de ce genre ne porte un coup à la foi, ne scandalise en un mot les esprits tranquilles. Car enfin, si M. Phoukas est mort, c'est que Dieu l'a voulu. Ne craignez-vous pas, en le ressuscitant, d'aller contre la volonté de Dieu ? Non, monsieur, car je suis sûr de ne pas ressusciter Phoukas si Dieu en a décidé autrement. Dieu permet qu'un homme attrape la fièvre, mais Dieu permet aussi qu'un médecin le guérisse. Dieu a permis qu'un brave soldat de l'empereur fût empoigné par 4 ivrognes de Russes, condamné comme espion, gelé dans une forteresse et desséché par un vieil Allemand sous une machine pneumatique. Mais Dieu permet aussi que je retrouve ce malheureux dans une boutique de bric-à-brac, que je l'apporte à Fontainebleau, que je l'examine avec quelques savants et que nous combinions un moyen à peu près sûr de le rendre à la vie. Tout cela prouve une chose, c'est que Dieu est plus juste, plus clément et plus miséricordieux que ceux qui abusent de son nom pour vous exciter. Oh, je vous assure, monsieur, que je ne suis nullement excité. Je me rends à vos raisons parce qu'elles sont bonnes et parce que vous êtes un homme considérable dans la ville. J'espère bien, d'ailleurs, que vous ne réprouverez pas un acte de zèle qui m'a été conseillé. Je suis fonctionnaire, monsieur. Or, qu'est-ce qu'un fonctionnaire ? Un homme qui a une place. Supposez, maintenant, que les fonctionnaires s'exposent à perdre leur place. Que restera-t-il en France ? Rien, monsieur, absolument rien. Mais j'ai l'honneur de vous saluer. Le 15 août au matin, M. Karl Nibor se présenta chez M. Renault avec le docteur Martout et la commission nommée à Paris par la Société de biologie. Comme il arrive souvent en province, l'entrée de notre illustre savant fut une sorte de déception. Madame Renaud s'attendait à voir paraître, sinon un magicien en robe de velours constellée d'or, au moins un vieillard d'une prestance et d'une gravité extraordinaires. Karl Nibor est un homme de taille moyenne, très blond et très fluet. Peut-être a-t-il bien 40 ans, mais on ne lui en donnerait pas plus de 35. Il porte la moustache et la mouche. Il est gai, parleur, agréable et assez mondain pour amuser les dames. Mais Clémentine ne jouit pas de sa conversation. Sa tante l'avait emmenée à Moret pour la soustraire aux angoisses de la crainte et aux enivrements de la victoire. Chapitre 10. Alléluia. Monsieur Nibor et ses collègues, après les compliments d'usage, demandèrent à voir le sujet. Ils n'avaient pas de temps à perdre et l'expérience ne pouvait guère durer moins de 3 jours. Léon s'empressa de les conduire au laboratoire et d'ouvrir les 3 coffres du colonel. On trouva que le malade avait la figure assez bonne. Monsieur Nibor le dépouilla de ses vêtements qui se déchiraient comme de l'amadou pour avoir trop séché dans l'étuve du père Mélisseur. Le corps mis à nu fut jugé très intact et parfaitement sain. Personne n'osait encore garantir le succès, mais tout le monde était plein d'espérance. Après ce premier examen, M. Renaud mit son laboratoire au service de ses hôtes. Il leur offrit tout ce qu'il possédait, avec une munificence qui n'était pas exempte de vanité. Pour le cas où l'emploi de l'électricité paraîtrait nécessaire, il avait une forte batterie de bouteilles de LED et 40 éléments de Bunsen tout neufs. Monsieur Libor le remercia en souriant. Gardez vos richesses, lui dit-il. Avec une baignoire et une chaudière d'eau bouillante, nous avons tout ce qu'il nous faut. Le colonel ne manque de rien que d'humidité. Il s'agit de lui faire rendre la quantité nécessaire au jeu des organes. Si vous avez un cabinet où l'on puisse amener un jet de vapeur, nous serons plus que contents. Tout justement, M. Audrey, l'architecte, avait construit auprès du laboratoire une petite salle de bain commode et claire. La célèbre machine à vapeur n'était pas loin, et sa chaudière n'avait servi jusqu'à présent qu'à chauffer les bains de monsieur et madame Renaud. Le colonel fut transporté dans cette pièce avec tous les égards que méritait sa fragilité. Il ne s'agissait pas de lui casser sa deuxième oreille dans la hâte du déménagement. Léon courut allumer le feu de la chaudière et monsieur Libor le nomma chauffeur sur le champ de bataille. Bientôt, un jet de vapeur tiède pénétra dans la salle de bain, créant autour du colonel une atmosphère humide qu'on éleva par degrés et sans secousse jusqu'à la température du corps humain. Ces conditions de chaleur et d'humidité furent maintenues avec le plus grand soin durant 24 heures. Personne ne dormit dans la maison. Les membres de la commission parisienne campaient dans le laboratoire. Léon chauffait. Monsieur Libor, Monsieur Renaud et Monsieur Martout s'en allaient tour à tour surveiller le thermomètre. Madame Renaud faisait du thé, du café et même du punch. Goton, qui avait communié le matin, priait Dieu dans un coin de sa cuisine pour que ce miracle impie ne réussît pas. Une certaine agitation régnait déjà par la ville, mais on ne savait s'il fallait l'attribuer à la fête du 15 ou à la fameuse entreprise des 7 savants de Paris. Le 16 à 2 heures, on avait obtenu des résultats encourageants. La peau et les muscles avaient recouvré presque toute leur souplesse, mais les articulations étaient encore difficiles à fléchir. L'état d'affaissement des parois du ventre et des intervalles des côtes montrait enfin que les viscères étaient loin d'avoir repris la qualité d'eau qu'ils avaient perdue autrefois chez M. Meisser. Un bain fut préparé et maintenu à la température de 37,5 degrés. On y laissa le colonel pendant 2 heures, en ayant soin de lui passer souvent sur la tête une éponge fine imbibée d'eau. M. Nibor le retira du bain lorsque la peau, qui s'était gonflée plus vite que les autres tissus, commença à prendre une teinte blanche et à se rider légèrement. On le maintint jusqu'au soir du 16 dans cette salle humide où l'on disposa un appareil qui laissait tomber de temps à autre une pluie fine à 37,5 degrés. Un nouveau bain fut donné le soir. Pendant la nuit, le corps fut enveloppé de flanelle, mais maintenu constamment dans la même atmosphère de vapeur. Le 17 au matin, après un troisième bain d'une heure et demie, les traits de la figure et les formes du corps avaient leur aspect naturel. On eût dit un homme endormi. 5 ou 6 curieux furent admis à le voir, entre autres le colonel du 23e. En présence de ses témoins, M. Libor fit mouvoir successivement toutes les articulations et prouva qu'elles avaient repris leur souplesse. Il massa doucement les membres, le tronc et l'abdomen. Il entr'ouvrit les lèvres, écarta les mâchoires qui étaient assez fortement serrées, et vit que la langue était revenue à son volume et à sa circonstance ordinaire. Il entr'ouvrit les paupières, le globe des yeux était ferme et brillant. « Messieurs, dit le savant, voilà des signes qui ne trompent pas. Je réponds du succès. Dans quelques heures, vous assisterez aux premières manifestations de la vie. » Mais, interrompit un des assistants, pourquoi pas tout de suite? Parce que les conjonctifs sont encore un peu plus pâles qu'il ne faudrait. Mais ces petites veines qui parcourent le blanc des yeux ont déjà pris une physionomie très rassurante. Le sang s'est bien refait. Qu'est-ce que le sang? Des globules rouges nageant dans du sérum ou petit lait? Ben, le sérum du pauvre Fougas s'était desséché dans les veines. L'eau que nous y avons introduite graduellement par une lente endosmose a gonflé l'albumine et la fibrine du sérum qui est revenue à l'état liquide. Les globules rouges que la dessiccation avait agglutinés demeuraient immobiles comme des navires échoués à la marée basse. Les voilà remis à flot. Ils épaississent, ils s'enflent, ils arrondissent leurs bords, ils se détachent les uns des autres. Ils se mettent à circuler dans leurs canaux à la première poussée qui leur sera donnée par les contractions du cœur. « Reste à savoir, dit M. Renaud, si le cœur voudra se mettre en branle. Dans un homme vivant, le cœur se met sous l'impulsion du cerveau transmise par les nerfs. Le cerveau agit sous l'impulsion du cœur transmise par les artères. Le tout forme un cercle parfaitement exact, hors duquel il n'y a pas de salut. Et lorsque le cœur et le cerveau ne fonctionnent ni l'un ni l'autre, comme chez le colonel, je ne vois pas lequel des deux pourrait donner l'impulsion à l'autre. Vous rappelez-vous cette scène de l'école des femmes, où Arnolphe vient heurter à sa porte? Le valet et la servante, Alain et Georgette, sont tous les deux dans la maison. Georgette crie, Alain. « Eh bien, répond Georgette, ouvre là-bas. Vas-y, toi. Oh, vas-y, toi. Ah, non, ma foi, je n'irai pas. « Je n'irai pas aussi. Ouvre vite, ouvre-toi. » Et personne n'ouvre. Je crains bien, monsieur, que nous n'assistions à une représentation de cette comédie. La maison, c'est le corps du colonel. Arnolphe, qui voudrait bien rentrer, c'est le principe vital. Le cœur et le cerveau remplissent le rôle d'Alain et de Georgette. Ouvre là-bas, dit l'un. Vas-y, toi, répond l'autre. Et le principe vital reste à la porte. Monsieur, répliqua en souriant le colonel Nibor, vous oubliez la fin de la scène. Arnolphe se fâche, il s'écrie. Quiconque de vous deux m'ouvrira pas la porte n'aura pas à manger de plus de 4 jours. Et aussitôt, à l'un de s'empresser, Georgette d'accourir et la porte de s'ouvrir. Notez bien que si je parle ainsi, c'est pour entrer dans votre raisonnement, car le mot de principe vital est en contradiction avec l'état actuel de la science. La vie se manifestera dès que le cerveau ou le cœur ou quelqu'une des parties du corps qui ont la propriété d'agir spontanément aura repris la quantité d'eau dont elle a besoin. La substance organisée a des propriétés qui lui sont inhérentes et qui se manifestent d'elle-même sans l'impulsion d'aucun principe étranger, pourvu qu'elle se trouve dans certaines conditions de milieu. Pourquoi les muscles de M. Fougas ne se contractent-ils pas encore? Pourquoi le tissu du cerveau n'entre-t-il pas en action? Parce qu'ils n'ont pas encore la somme d'humidité qui leur est nécessaire. Il manque peut-être 1 demi-litre d'eau dans la coupe de la vie. Mais je ne me hâterai pas de la remplir, j'ai trop peur de la casser. Avant de donner un dernier bain à ce brave, il faut encore masser tous ses organes, soumettre son abdomen à des pressions méthodiques, afin que les séreuses du ventre, de la poitrine et du cœur soient parfaitement désagglutinées et susceptibles de glisser les unes sur les autres. Comprenez que le moindre accroc dans ces régions-là, et même la plus légère résistance, suffirait pour tuer notre homme dans l'instant de sa résurrection. Tout en parlant, il joignait l'exemple au précepte et pétrissait le torse du colonel. Comme les spectateurs remplissaient un peu trop exactement la salle de bain, et qu'il était presque impossible de s'y mouvoir, Monsieur Nibor les pria de passer dans le laboratoire. Mais le laboratoire se trouva tellement plein qu'il fallut l'évacuer au profit du salon. Les commissaires de la société de biologie avaient à peine un coin de table où rédiger le procès-verbal. Le salon même était bourré de monde, ainsi que la salle à manger et jusqu'à la cour de la maison. Amis, étrangers, inconnus, se serraient les coudes et attendaient en silence. Mais le silence de la foule n'est pas moins bruyant que le grondement de la mer. Le gros docteur Martout, extraordinairement affairé, se montrait de temps à autre et fendait les flots de curieux comme un galion chargé de nouvelles. Chacune de ses paroles circulait de bouche en bouche, et se répandait jusque dans la rue où 30 groupes de militaires et de bourgeois s'agitaient en tous sens. Jamais cette petite rue de la Faisanderie n'avait vu semblable cohue. Un passant étonné s'arrêta demandant « Qu'y a-t-il à cet enterrement? »« Au contraire, monsieur. »« Ah, c'est donc un baptême. »« À l'eau chaude. »« Ah, une naissance. » Une renaissance. Un vieux juge au tribunal civil expliquait au substitut la légende du vieil Aizon bouilli dans la chaudière de Médée. Oh, c'est presque la même expérience, disait-il. Je croirais que les poètes ont calomnié la magicienne de Colchos. Il y aurait de jolis vers latins à faire là-dessus, mais je n'ai plus mon antique prouesse. Fabula medeum cum crimine carpit iniquo. Ecce novus surgit redivivis aeson abundis, fortior arma petens, juvenili pectore miles. Redivivis est pris dans le sens actif, c'est une licence, ou du moins une hardiesse. Ah, monsieur, il fut un temps où j'étais l'homme de toutes les audaces en vers latin. disait un conscrit de la classe de 1859. Quoi, qui a Frévino? C'est-il vrai qu'ils font bouillir un ancien dans une marmite, histoire de le réhabiliter dans ses habits de colonel? Ouais, trop bon, pas vrai, subalterne, je me le suis laissé dire. Vrai, tu ou pas vrai? Mais j'ai parié que c'est une histoire sans fondement, sauf votre respect. Apprenez, Frévino, que rien n'est impossible à vos supérieurs. Vous n'ignorez pas concurremment que les légumes séchés, en les faisant bouillir, récapitulent leur état primitif et surnaturel. Mais caporal, que si on les cuisait 3 jours de temps, elles tomberaient en bouillie. Imbécile, pourquoi que les anciens, on les appelle des durs à cuire? À midi, le commissaire de police et le lieutenant de gendarmerie fendirent la presse et s'introduisirent dans la maison. Ces messieurs s'empressèrent de déclarer à M. Renaud, père, que leur visite n'avait rien d'officiel et qu'ils venaient en curieux. Ils rencontrèrent dans le corridor le sous-préfet, le maire et Goton, qui se lamentaient tout haut de voir le gouvernement prêter les mains à des sorcelleries pareilles. Vers 1 heure, M. Nibor fit prendre au colonel un nouveau bain prolongé, au sortir duquel le corps subit un massage plus fort et plus complet que le premier. « Maintenant, dit le docteur, nous pouvons transporter M. Fougas au laboratoire pour donner à sa résurrection toute la publicité désirable. Mais il conviendrait de l'habiller, et son uniforme est en lambeaux. » « Oh, je crois, répondit le bon monsieur Renaud, que le colonel est à peu près de ma taille. Je puis donc lui prêter des habits à moi. Fasse le ciel qu'il les use, mais entre nous, je ne l'espère pas. » Goton apporta en grommelant ce qu'il faut pour vêtir un homme complètement nu. Mais sa mauvaise humeur ne tint pas devant la beauté du colonel. « Pauvre monsieur, s'écria-t-elle, c'est jeune, c'est frais, c'est blanc comme un petit poulet. S'il ne revenait pas, ce serait grand dommage. » Il y avait environ 40 personnes dans le laboratoire lorsqu'on y transporta Fougas. Monsieur Nibor, aimé de monsieur Martout, l'assit sur un canapé et réclama quelques instants de vrai silence. Madame Renaud fit demander sur ses entrefaites s'il lui était permis d'entrer. On l'admit. « Madame et messieurs, dit le docteur Nibor, l'avis se manifestera dans quelques minutes. Il se peut que les muscles agissent les premiers et que leur action soit convulsive, n'étant pas encore réglée par l'influence du système nerveux. Je dois vous prévenir de ce fait pour que, le cas échéant, vous ne soyez point effrayés. Madame, qui est mère, devra s'en étonner moins que personne. Elle a ressenti au 4e mois de la grossesse l'effet de ces mouvements irréguliers qui vont peut-être se produire en grand. J'espère bien, au reste, que les premières contractions spontanées se produiront dans les fibres du cœur. C'est ce qui arrive chez l'embryon où les mouvements rythmiques du cœur précèdent les actes nerveux. » Il se remit à exercer des pressions méthodiques sur le bas de la poitrine, stimulant la peau des mains, entr'ouvrant les paupières, explorant le pouls, auscultant la région du cœur. L'attention des spectateurs fut un instant détournée par un tumulte extérieur. Un bataillon du 23e passait, musique en tête, dans la rue de la Faisanderie. Tandis que les cuivres de M. Saxe ébranlaient les fenêtres de la maison, une rougeur subite empourpra les joues du colonel. Ses yeux, qui étaient restés entr'ouverts, brillèrent d'un éclat plus vif. Au même moment, le docteur Nibor, qui auscultait la poitrine, s'écria « J'entends les bruits du cœur !» À peine avait-il parlé que la poitrine se gonfla par une aspiration violente. Les membres se contractèrent, le corps se dressa, et l'on entendit un cri de « Vive l'empereur !» Mais comme si un tel effort avait épuisé son énergie, le colonel Fougas retomba sur le canapé en murmurant d'une voix éteinte « Où suis-je, garçon, l'annuaire ?»